France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Elle était l'inoubliable Thérèse dans Le Père Noël est une ordure au sein de la troupe du Splendide. L'actrice Anémone est décédée hier des suites d'une longue maladie. Comédienne dans près de 80 films, Anémone a remporté le César de la meilleure actrice en 88 pour Le Grand Chemin du réalisateur Jean-Loup Hubert, un film dans lequel elle joue une femme en manque d'enfants. Anémone avait 68 ans. En ce mercredi 1er mai, l'actualité est aussi sociale avec les traditionnels défilés syndicaux prévus aujourd'hui partout en France, en cette fête du travail. Une fête que les autorités craignent de voir gâchée par des casseurs. 1000 à 2000 black blocs sont attendus à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, qui mobilise donc 7400 policiers et gendarmes dans la capitale. À Paris, les commerces sur le parcours du cortège sont invités à ne pas ouvrir. Manifestation interdite par ailleurs dans certains centres-villes à Caen ou à Lyon. L'incertitude toujours au Venezuela ce matin. L'opposant Juan Guaido dit avoir le soutien de certains militaires du pays. Ses partisans ont manifesté hier à Caracas et partout ailleurs dans le Venezuela. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu, faisant au moins 69 blessés. Le président Nicolas Maduro lui dénonce un coup d'État et il dément avoir voulu quitter le pays pour aller à Cuba, contrairement donc à ce qu'affirmait un peu plus tôt Washington. Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées. C'était hier aux États-Unis lors d'une fusillade sur le campus de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte. Selon les médias locaux, le suspect placé en détention provisoire serait l'un des étudiants de l'établissement. Il a promis de se tenir toujours aux côtés du peuple. Naruhito est devenu officiellement cette nuit le 126e empereur du Japon. Il succède à son père, Akihito, qui avait abdiqué hier. Et puis, notons que le parti travailliste au Royaume-Uni s'est accordé sur la possibilité d'un second référendum sur le Brexit. Un deuxième vote populaire, et ce, si la gauche n'obtient pas d'élections législatives anticipées et si le gouvernement conservateur ne change pas de politique. Voilà ce que disent les responsables de l'opposition.
Saison 2019-2020 de l'Auditorium de Radio France.
Emmanuel Krivine,
Nico Franck,
Ricardo Muti,
Martha Argerich,
Renaud Capuçon,
Marie-Nicole Lemieux,
Leonardo Garcia Alarcón,
Myung-Whun Chung,
Martina Batic,
Mathias Görne,
Carole Mosakowski,
Quatuor Diotima,
Barbara Hannigan,
Sophie Janin,
Sergei Babayan,
Alain Planès,
Andy Hemler,
François-Frédéric Guy,
Bertrand Chamaillou,
Patricia Tchoffi.
La nouvelle saison des concerts de Radio France est ouverte. Brochure, abonnement et réservation, maisondelaradio.fr.
Entrez au cœur du concert.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous si tôt en ce jour férié. Et merci à toutes et à tous, de plus en plus nombreuses et nombreux, qui nous écoutent en différé en passant par le podcast du Réveil Culturel, disponible entre autres sur franceculture.fr. Tous les mercredis, on parle cinéma et de l'actualité ciné dans le Réveil Culturel. Et aujourd'hui, on va parler d'un documentaire, parce qu'aujourd'hui sort au cinéma le film de la réalisatrice Barbara Miller, Female Pleasure, qui questionne les rapports conflictuels entre les cinq grandes religions que sont le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et le corps féminin. Et pour nous en parler, deux journalistes, René Grezard et Clarence Edgar Rosa. Et il flotte déjà une odeur de muguet dans le studio des Petits Matins de France Culture. Corinne Amar et Maëlle Ray sont à la coordination, Alain Joubert à la prise de son. Le Réveil Culturel est réalisé par Vincent Abouchard.
Le Réveil Culturel, mercredi, cinéma.
Et le documentaire Female Pleasure, qu'on peut voir donc au cinéma dans quelques salles d'art et d'essai à partir d'aujourd'hui, dresse le portrait de cinq femmes de confessions différentes qui se battent pour faire changer, disons, les mentalités dans leur pays et vivre leur sexualité librement. Bonjour Clarence Edgar Rosa.
Bonjour.
Vous êtes née en 1989, vous êtes journaliste, aujourd'hui à Marie-Claire, et depuis quelques années, vous vous occupez justement du féminisme, du genre, de la sexualité. Donc vous avez vu ce film, première réaction.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, qui est pas du tout en fait un film sur les religions. Vraiment, c'est pas du tout le sujet central. C'est vraiment un film sur le patriarcat et toutes les manières très créatives, mais en même temps toujours les mêmes avec lesquelles la société dans laquelle on vit essaye de contrôler le corps des femmes et plus particulièrement leur sexualité. C'est un film qui tourne autour de personnages féminins qui sont...
Débattantes, on peut le dire.
Ouais, qui sont toutes des femmes très intéressantes, qui chacune à leur manière essaye de se battre plus ou moins collectivement, enfin voilà, avec les femmes qui les entourent et pour les droits de celles qui les entourent. C'est-à-dire que c'est pas des combats individuels, c'est vraiment très politisé dans leur esprit à chacune. C'est toujours hyper inspirant d'entendre ces femmes-là raconter leur parcours.
René Grezard, également née dans les années 80 et également journaliste pour différentes rédactions et radios. Là, vous travaillez pour Rue 89.
Exactement.
Et vous êtes spécialiste aussi de ces questions-là.
Oui.
Vous avez vu le film ?
Tout à fait, j'ai vu le film.
Et alors ? Verdict ?
Alors, moi, je l'ai trouvé super aussi. J'ai trouvé, comme Clarence, que ces femmes sont inspirantes, qu'elles sont fortes et que c'est des beaux modèles de femmes. Après, j'ai une petite réserve, c'est que finalement, en fait, ce qu'on voit, c'est le patriarcat qui s'exerce sur des cas très spectaculaires. Donc, on parle d'une jeune femme qui a été violée quand elle était dans les ordres, parce qu'elle était, c'est quoi exactement le terme, enfin,
elle était bonne sœur.
Bonne sœur, voilà. On parle de femmes excisées, et bien sûr, tout ça existe. C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout dire que ça n'existe pas. Mais voilà, enfin, il y a quand même des choses qui encore aujourd'hui arrivent tous les jours et qui sont liées à cette culture religieuse, à la façon dont on a, il y a des chercheurs qui disent exciser psychologiquement aussi les femmes, c'est-à-dire comment on a invisibilisé leur sexualité, enfin leur plaisir sexuel plutôt. Et je trouve que finalement c'est peu abordé dans le film, et alors que c'est ce qui constitue notre quotidien, c'est ce qui fait qu'une adolescente sur quatre ne sait pas qu'elle a un clitoris. Donc, enfin voilà, j'aurais juste aimé peut-être que dans le documentaire on sort un tout petit peu du spectaculaire à un moment donné pour dire que c'est pas juste des femmes excisées, des femmes violées par des prêtres, des femmes en Inde qui n'ont pas le droit d'aimer. Enfin, il y a aussi des choses très concrètes et quotidiennes.
Final, plus jeune de Barbara Miller, qui sort donc aujourd'hui au cinéma.
We live in an environment where women are constantly judged.
女性は男性のイメージ通りでなければ嫌われます。
What is it that happened millions of years ago that they felt they had to do this to our bodies?
The concept of love does not exist in India.
In der Welt, in der ich gelebt habe, war ich als Frau eine Gefahr.
I was 17 years old. I was to have intercourse with someone I didn't know.
It's about controlling women's sexuality, and that's a global issue.
人口は奉られているのに。
自分の肩でも取ってマンコっていうか、
An artist in Tokyo has been arrested for 3D printing an image of her vagina.
非正規になっても日本はそんな状態なのって。
À travers cinq exemples, cinq femmes qui, dans différents pays, issues de différentes cultures, se sont battues contre la diabolisation universelle, on peut le dire, structurelle, on peut le dire aussi, et millénaire du corps féminin à partir de prétextes religieux. La réalisatrice Barbara Miller a donc réalisé ce documentaire, Female Pleasure. Ce qui est quand même important dans ce documentaire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que Clarence Edgarosa et René Grezard, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, c'est que, pour une fois, la problématique est clairement exposée. Ce n'est pas une histoire de droit entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une histoire aussi de religion. Ça a été dit plus d'une fois dans ce documentaire, et c'est pour ça qu'ils ont pris toutes les grandes religions du monde. Ça a à voir avec la sexualité. Et les cinq femmes voudraient régler ce problème, enclencher un débat autour des pratiques sexuelles.
Oui, enfin, c'est pas tant les pratiques sexuelles qui sont en question ici, hein. C'est vraiment le corps des femmes. Au final, il est assez peu question, je crois, enfin je trouve en tout cas, de sexualité. On parle pas énormément de plaisir, vraiment. On parle surtout de se défaire de ce contrôle qui est permanent, qui est parfois extrêmement violent. Voilà, et c'est même la première étape avant même de pouvoir parler de plaisir. En vérité, on parle juste de liberté.
Là où il y a un vrai truc, c'est vrai, qui est lié au plaisir sexuel, c'est que le plaisir sexuel des femmes a été contesté. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, notamment le clitoris, quand je parlais d'invisibilisation tout à l'heure, c'est le seul organe humain en fait qui soit dédié qu'au plaisir. C'est-à-dire que en fait pour faire des bébés, on n'a pas besoin d'un clitoris. C'est juste un organe qui est lié au plaisir. Et donc on se rend compte que toute cette dimension-là, qui est une dimension de plaisir pour les femmes, de connaissance d'eux-mêmes, voilà, est un organe qui a été maltraité. Et donc moi j'ai l'impression que finalement c'est un peu le combat qu'il y a beaucoup en ce moment et qu'on retrouve beaucoup chez des Instagrammeuses qui lancent des comptes. Je pense à Jouissance Club, à La Prédiction, ou plein de nanas comme ça, T'as joui, qui essayent de montrer que en fait le clitoris est le début d'un combat politique pour que les femmes effectivement puissent reprendre la possession de leur corps. Et voilà. Mais donc je suis d'accord avec Clarence. En fait, c'est un combat sur le corps des femmes. Et il se trouve que je sais pas si c'est le début ou si c'est la fin, mais le clitoris, c'est quelque part au début ou à la fin, quoi.
Non, mais quand on voit cette artiste japonaise qui travaille autour, justement, du sexe féminin, quand on voit cette battante indienne qui décide de créer un site entièrement dédié à la sexualité des hommes et des femmes, et en mettant à égalité le plaisir des hommes et des femmes, n'est-ce pas là le terrain de bataille du nouveau féminisme?
Oui, enfin, c'est évident que c'est un sujet fondamental et c'est un sujet fondamental pour la troisième vague du mouvement féministe dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un sujet qui est central pour les jeunes générations de filles et de garçons qui militent aujourd'hui pour l'égalité des hommes et des femmes. Donc oui, c'est absolument central. Après, là où pour moi, c'est pas, encore une fois, pas totalement le sujet premier du film, pour moi, il est plus question de contrôle des corps que de sexualité. C'est qu'encore une fois, vous citez cette militante indienne, son initiative, elle parle presque parfois plus d'amour, de respect mutuel, d'écoute, voilà, de communication non violente entre les garçons et les filles, de viol aussi, de violence et de comment y remédier, plutôt que de sexualité à proprement parler. La japonaise, elle est aussi hyper intéressante. Enfin, c'est un personnage qui est génial, elle est hilarante, voilà. Elle fait quand même un kayak avec un moulage de sa vulve. Mais c'est intéressant parce
que
pendant tout le film.
Au Japon, et ça c'est bien expliqué dans le film hashtag Female Plaisir, dans son pays, on peut jouer avec le sexe masculin, le représenter, mais c'est interdit pour le sexe féminin.
Oui, le sexe masculin, de toute façon, est omniprésent dans les représentations, dans la culture japonaise, donc elle est en plus dans un territoire particulièrement de contraste, dans lequel c'est insupportable qu'on lui dise qu'elle ne peut pas représenter un sexe féminin alors que le sexe masculin est partout. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans toutes les séquences où on la voit, elle utilise le mot vagin pour parler de sa vulve, et ça, pour moi, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que même une militante de la question, qui est par ailleurs filmée par une autre militante, la réalisatrice...
Barbara Miller, pour la citer.
On peut passer un film entier à parler de la vulve en disant vagin. Et ça, je trouve ça assez terrifiant. Ça veut dire que même quand on est vraiment la tête dans le guidon de ce combat, on peut quand même participer de la mauvaise représentation et du coup, in fine, de la méconnaissance du sexe féminin par les femmes elles-mêmes. Je pense qu'on peut facilement pleurer devant ce film qui est pas un film joyeux. Après, c'est un film qui est, il y a quelque chose de très grisant parce que ces cinq personnages là, elles sont jamais, leurs routes ne se croisent jamais, elles ne se rencontrent pas, elles ne se parlent pas.
Elles n'habitent pas le même monde,
elles n'habitent pas le même pays. Elles vivent des choses extrêmement différentes. Elles n'ont aucune idée que l'autre est en train de vivre quelque chose de drastiquement opposé à ce qu'elles vivent, même si les mécanismes au fond sont les mêmes. Mais on a l'impression d'un mouvement global. On a l'impression qu'elles participent de la même vague, de la même mouvance, et ça c'est assez grisant à regarder, surtout quand on est déjà acquis à la cause comme c'est mon cas. Donc en ce sens, c'est un film qui est joyeux, c'est un film qui est c'est sûr moderne. Il est aussi terrifiant, je pense, que pour des gens qui ne sont n'ont pas idée de cette question-là et qui sont encore à convaincre sur le bien fondé des arguments féministes, c'est un film qui peut être brutal. Je pense notamment à tout le passage sur l'excision, c'est à peu près la version la plus violente physiquement, la plus sanglante et la plus terrible du point de vue physique de la manière dont le patriarcat peut s'exercer sur une femme ou une petite fille. Ça, je pense que quelqu'un qui n'est pas du tout concerné, intéressé, documenté sur la question, ça peut être quelque chose de très brutal. Donc en soi, ça c'est très bien, il faut qu'il soit vu ce film.
It's very difficult to have men talk about things which actually questions their masculinity.
Women need to remember that they actually own their bodies.
The female body is just as precious, just as valuable as the man's.
You can't
cannot isolate the role of men and the role of women. It's not a question of fixing one gender before the other. We all have to change.
René Grossard, j'ai oublié aussi de préciser que vous-même aussi, en 2006, vous avez publié une enquête plutôt drôle qui déconstruit les idées reçues et les analyses tenaces sur la grossesse et qui a pour titre « Enceinte, tout est possible » publié chez La Thèse. Est-ce que vous avez le même regard sur ce documentaire que votre consoeur Clarence Edgar Rosa ?
Oui, moi non plus, je dirais pas que c'est un film joyeux. J'ai pleuré devant, donc.
À quel moment vous avez pleuré?
Il y a un passage qui est vraiment très, le passage dont parlait Clarence, hein, sur
donc la Somalie.
Donc voilà, enfin, il y a une réunion de femmes, enfin, moi je suis toujours très émue par des femmes qui sont réunies et qui disent ensemble qu'elles ont souffert du patriarcat. C'est quelque chose qui me met la chair de poule à peu près immédiatement, quoi. Et je trouve ça, en fait, je trouve pas ça faible, je trouve ça fort. Je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant qui se dégage de ces moments-là où les femmes se tiennent par la main et disent qu'elles ont vécu quelque chose de douloureux. Moi, c'est quelque chose, je suis sensible à ça. Sur le film, je trouve que ça participe, je trouve, d'un mouvement global, enfin, qui est en ce moment sur la sexualité, qui est de dire, enfin, je vois, j'ai commencé à parler de la sexualité il y a 10 ans sur 89. Et il y avait des sujets qui étaient très tabous et qui aujourd'hui le sont beaucoup moins. Mais je pense même pas qu'à la sexualité des femmes. Hein, il y a la sexualité des hommes, notamment avec la question du point P, par exemple, l'orgasme, enfin le plaisir propre prostatique. Je pense aussi à des termes qui avaient l'air très militants il y a 10 ans, comme la question d'une sexualité phallocentrée, qui aujourd'hui sont beaucoup plus répandue et enfin connue de beaucoup de gens, où en gros on comprend que la sexualité est un point de départ pour les femmes et les hommes pour s'affranchir de normes qui sont enfermantes et liberticides et qui permettent, en fait, le but quand même du féminisme, c'est quand même que tout le monde soit plus heureux à la fin, quoi. Donc je trouve que le documentaire participe d'une manière, encore une fois, que je trouve très spectaculaire, avec des cas qui sont très violents, et c'est très bien qu'on en parle, mais voilà, à cette libération qui est en cours. Et effectivement, quand tu parlais de troisième vague du féminisme, on est dedans, quoi. De femmes qui cherchent à reprendre le pouvoir sur leur corps, et d'une manière joyeuse aussi, par la sexualité. Mais bon, là, on l'exprime dans une manière qui, effectivement, n'est pas du tout joyeuse avec ce documentaire.
So much love, so much more, so much more love to give. I got so much more, so much love, so much more love left to give. So much pleasure draws me like I never saw.
Marianne Faithfull, parlant de plaisir, sexuelle sur France Culture pour le petit matin et pour le réveil culturel consacré à la sortie de ce film hashtag Female Pleasure qui raconte l'histoire de cinq destinées, on peut le dire, hein, cinq personnages féminins. La juive new-yorkaise Deborah Feldman qui, elle, va essayer de s'émanciper du carcan de sa famille ultra-orthodoxe dans le quartier de Williamsburg. Il y a aussi à Mogadiscio la Leila Hussein, donc là on est en Somalie, et là c'est peut-être les moments les plus durs, on en a parlé en première partie de l'émission avec Clarence Edgar Rosa et René Grezard, nos deux invités, deux journalistes. Il y a la japonaise qui, elle, doit faire face à une famille traditionnelle bouddhiste. Doris Wagner qui, elle, a grandi dans une famille catholique protestante en Bavière où elle a été violée. Puis enfin, dans un contexte de l'Inde d'aujourd'hui et dans une culture hindoue, il y a Vidika Yadav. Que dit ce casting de la réalisatrice?
Moi, je pense que l'intention est assez simple, c'est d'avoir une des femmes dans les cinq coins du monde. Enfin, donc d'avoir
et les cinq religions.
Et les cinq religions, voilà. Donc c'est juste de montrer que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur. Qui s'exerce en fait partout dans le monde de la même manière sur le plaisir féminin, comme si ce plaisir avait effrayé, et sur le corps des femmes. Enfin voilà, on partout dans le monde, on a essayé de brimer. D'étouffer le plaisir et le corps des femmes.
Alors, elles sont toutes en rupture avec leur milieu. Hein. Par exemple, Deborah Feldman, elle quitte New York, elle quitte Williamsburg pour vivre à Berlin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Clarence Edgar Rosa, vous qui avez vu aussi ce film en avant-première, film qui sort aujourd'hui, je le rappelle?
Ben, moi, j'ai été très impressionnée par cette femme, je la trouve absolument incroyable, je la connaissais pas, du coup, j'ai fait des recherches sur elle, elle est impressionnante, et il faut voir à ce sujet-là aussi un documentaire qui est visible sur Netflix en ce moment, justement sur cette communauté juive de Brooklyn, voilà, qui exerce un contrôle absolu sur les familles, et spécifiquement sur les femmes, parce que ça permet de davantage comprendre vraiment les pressions auxquelles elle fait face, et puis vraiment la fermeture de la terrible vraiment communauté à laquelle elle tourne le dos, et tous les risques qu'elle prend en le faisant, parce qu'on c'est totalement lunaire quoi ce qu'elle fait. Elle a une force absolument incroyable. Donc moi c'est l'un des personnages qui m'a le plus impressionné, mais je voudrais rebondir sur quelque chose que disait René tout à l'heure que je rejoins, c'est que c'est des femmes qui sont absolument incroyables. Toutes de manière différente. La japonaise, elle est pas du tout le même genre de femme.
Ouais, bah elle est artiste, la japonaise.
Mais elle
ouais.
est hilarante, elle est géniale, et puis elle a une telle légèreté, mais en même temps, elle est tellement jusqu'au boutiste dans sa quête qu'elle en est géniale aussi. Mais c'est vrai que c'est des profils de femmes totalement, spectaculaires. Et en effet, on n'a pas besoin d'aller sur des parcours aussi incroyables pour faire la démonstration de ce problème-là. Et c'est vrai que c'est ce que relevait René. Je suis d'accord. En ça, je trouve que c'est intéressant pour plein de gens qui ne se questionnent pas sur ces sujets-là et qui peuvent se prendre un peu la claque dans la tronche qui peut leur permettre de se documenter davantage. Donc ça, je trouve que c'est plutôt vertueux. Par contre, ça peut avoir un peu l'effet inverse en retour de bâton, qui est un petit peu de laisser entendre qu'il n'y a que par ces cas absolument spectaculaires que ce patriarcat s'exprime. Or, il s'exprime de façon aussi beaucoup, beaucoup plus subtile, beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus quotidienne, et moins spectaculaire tous les jours autour de nous.
Par exemple, on va au Japon pour montrer donc cet artiste.
Oui, René Grossard. Ouais.
Voilà, on va au Japon pour montrer cet artiste qui a pas le droit de représenter sa vulve. Et en fait, on pourrait. Enfin, moi, il y avait juste des moments où j'avais envie de dire, mais en France, est-ce qu'on a déjà vu un clitoris dessiné sur un mur ou un sexe féminin dessiné sur un mur? Quand quelqu'un dessine un sexe sur un mur, c'est toujours un pénis de toute manière. Et pourquoi? Parce que, enfin, le sexe des femmes est complètement invisible et que c'est pas quelque chose qu'on montre. Et enfin, si on demande à quelqu'un de dessiner une vulve ou un clitoris, honnêtement. Enfin, vous pouvez faire le test, hein. C'est une catastrophe. Les gens ne savent pas représenter un sexe féminin. Donc, enfin, on va au Japon pour montrer ça, et c'est super de voir que cette fille existe. En plus, elle est géniale, elle est hyper créative, elle est drôle, elle est super. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, regardons aussi ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'un adolescent de 15 ans est capable de dessiner un utérus? Ou, enfin, parce que là, je vais plus loin encore, mais
je vais trop loin là.
Je vais beaucoup trop loin. Mais est-ce qu'un adolescent ou une adolescente est capable de dessiner? Bah, il y avait des chiffres, hein, d'ailleurs, que j'avais pris parce que je me disais que ça pouvait vous intéresser, mais 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe, alors qu'elles sont 53 à savoir dessiner un sexe masculin. Donc en fait, tout ce que ça dit, c'est que tant qu'on n'aura pas ces connaissances, les femmes ne seront pas libres. Savoir à quoi ressemble son corps, c'est le début de la liberté aussi.
Et enfin, pour terminer, Clarence Edgarroza.
Moi, je suis en train de finir un livre exactement sur cette question, donc j'ai vraiment complètement la tête dedans. Je trouve que c'est en effet...
Pour dire quoi, au juste? Vous écrivez un livre pour arriver à nous faire ouvrir les yeux sur quel aspect, justement, de...
Précisément, ce qui était en train de dire René, que je rejoins, pour moi, une des urgences, là, aujourd'hui, c'est que les femmes s'autorisent à connaître leur propre corps. C'est-à-dire que, en effet, là, je sais pas, aujourd'hui...
C'est ce qu'elles font, les femmes, de ce documentaire hashtag female pleasure.
Oui, tout à fait. C'est absolument. C'est une manière de se documenter, en effet, ce film sur la manière dont cette domination à l'égard des femmes s'exprime. Mais c'est vrai que... Je pense que vraiment une des choses, un des leviers les plus pertinents là aujourd'hui pour qu'on avance sur cette question de la sexualité féminine et voilà de l'appropriation aussi des savoirs gynécologiques, médicaux, pour que les femmes soient plus seulement des patientes voilà qui subissent la médecine, mais qu'elles en soient davantage actrices, c'est effectivement qu'elles apprennent à connaître leur corps. Mais ce que ce film montre aussi, c'est vraiment l'un des enjeux de ce problème-là, c'est que y a une auto-censure des femmes sur ce sujet-là. C'est la première étape, c'est vraiment de s'autoriser à connaître son corps et à se dire déjà que ça nous intéresse, que c'est important et que potentiellement ça peut nous apporter quelque chose et que la sexualité n'est pas quelque chose qu'on offre à quelqu'un mais qu'on a pour soi.
Je pense à plein d'autres combats qui peuvent être menés aujourd'hui, notamment sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre et être mère, qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre et être enceinte. Enfin bon, ça c'est mes sujets à moi aussi, mais je pense.
Mais
que...
pour le film, pour revenir sur le film qui sort aujourd'hui de Barbara Miller.
Ben en fait, ce qui est sûr, c'est que le corps des femmes est pour moi l'enjeu effectivement du féminisme et donc du coup encore des luttes à venir et voilà. Et là, ça s'exprime sur la sexualité d'une manière très particulière parce que c'est un enjeu de liberté, mais oui, c'est sûr que c'est une lutte d'aujourd'hui et de demain. Quoi. I go to the hill full throttle full on. Tilt the bottle and I take it strong. Come a little closer, can you hear my thong? What's the matter, boy? I say something wrong. Take my pulse and add in song. Smoke a little cigarette and join my car. I get results, do a somersault. Think you got the combination, crack that vault. Just coast, I'm the virus, you're the host. Relax, slip in the cracks. I'll take you to another place, we're making contact. Relax, slip in the cracks. I'll take you to another place, you never wanna come back. I'm the real season's velveteen. Just press start on my main machine. Sight unseen, another Halloween. Stretch 16 on my mossy green. Bam, 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 is how the party began. Wham, 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 is how I potted the dam. Taking a stand, bringing the glam, Shazam. I'm a Wonder Woman. Ground floor, French door, brown. What you running from? Relax, slip in the cracks. I'll take you to another place, we're making contact. Relax, slip in the cracks. I'll take you to another place, you never wanna come back.
Merci René Grosard et merci Clarence Edgarroza d'être passé ce matin pour nous parler de la sortie de ce documentaire sorti dans quelques salles d'art et d'essai. Hashtag, allez les filles, aidez-moi. Hashtag
female pleasure.
Voilà, de Barbara Miller qui sort aujourd'hui. Bon 1er mai, merci d'être sur France Culture.
Tail on my pussy, whistle blow my clit. Watch it open up, cause it can't keep a secret. Tail on my pussy, whistle blow my clit. Watch it open up, cause it can't keep a secret.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Faut pas lui dire des choses trop gentilles, Dame Eboshi.
Viens ici.
La flatterie lui monte facilement à la tête.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi sur France Culture à 10h, Adèle Manrette.
Le cinéma de Miyazaki est fait de vent, de tempêtes, d'avions, d'enfants et de personnages étranges. tous les délires sont assumés, toutes les fantaisies sont permises du moment qu'elles sont au service d'une vision du monde, propre au réalisateur que nous allons découvrir ensemble cette semaine.
Le vent s'engouffre dedans.
Les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Un autre regard sur l'actualité, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Du grain à moudre, c'est votre magazine quotidien de débat sur l'actualité.
Ce mercredi, la génération Y est-elle soluble dans le monde du travail ? On entend de plus en plus que les jeunes rejettent le monde du travail et qu'ils privilégient les contrats courts. Peut-on dire que les jeunes souhaitent plus de mobilité que la génération de leurs parents ? Sont-ils si réticents à entrer dans le monde du travail ? Du grain à moudre ce mercredi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Va-t-on vers une deuxième journée de manifestations et d'affrontements au Venezuela ? Hier, 69 personnes ont été blessées. Le président Nicolas Maduro a parlé d'un coup d'État. Quand l'opposant Juan Guaido dit convaincre un petit groupe de militaires de le rallier, nous irons à Caracas. Retour aussi sur l'intronisation du nouvel empereur japonais. C'était cette nuit. Naruhito s'engage à être toujours aux côtés de son peuple. Et puis en ce 1er mai, journée de défilé et de fête du travail, dans quel état d'esprit sont les forces de l'ordre ? Fatiguées, vous l'entendrez. Fatigués aussi certains journalistes qui couvrent les manifestations de Gilets jaunes depuis plus de 5 mois. Les députés à l'Assemblée nationale s'en sont inquiétés hier. Le Venezuela a encore tremblé. Les autorités accusent l'opposition de tentative de coup d'État après un appel à manifester de Juan Guaido. L'opposant, hier, était entouré d'un groupe de militaires. Quelques-uns le soutiennent maintenant. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre s'en sont suivis. Ils ont fait 69 blessés pour une situation qui est toujours aussi confuse ce matin. Benjamin Dulille, une nouvelle journée de manifestation pourrait se profiler.
Après avoir gardé le silence une bonne partie de la journée, Juan Guaido s'est finalement adressé à ses compatriotes dans la soirée. Il invite ses partisans à revenir dans la rue comme prévu ce mercredi 1er mai. L'opposant estime que ce 30 avril a été historique et que ce n'est pas un coup d'État mais une rébellion pacifique qui est en marche. En face, Nicolas Maduro est aussi sorti du silence à peu près au même moment. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête contre ce qu'il estime être une tentative de coup d'État. Elle a selon lui lamentablement échoué et il assure qu'à peine une vingtaine de militaires ont rejoint l'opposition. Derrière les discours, la situation est toujours aussi floue. Si l'un et l'autre revendiquent le soutien de l'armée, on ne sait toujours pas combien de militaires ont rejoint Juan Guaido. Le haut commandement semble quant à lui toujours fidèle à Nicolas Maduro. Beaucoup attendent donc que ce 1er mai apporte des réponses et des précisions. Tout dépendra du succès des mobilisations prévues par les deux camps un peu partout au Venezuela.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. 2 morts, 4 blessés dont 2 le sont grièvement. Voici le bilan d'une nouvelle fusillade aux États-Unis cette nuit. Cela s'est passé sur le campus de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte. Un bilan susceptible d'évoluer selon les autorités. Un suspect a été interpellé après cette fusillade. 6 minutes d'une cérémonie très codifiée. Et le Japon a désormais un nouvel empereur, le 126e empereur de la dynastie japonaise la plus longue de l'histoire mondiale. Naruhito, 59 ans, succède à son père qui avait exceptionnellement abdiqué hier. La cérémonie d'accession au trône a eu lieu donc cette nuit, c'était dans la matinée pour l'heure de Tokyo. Et le Japon a donc basculé dans la nouvelle ère impériale, l'ère Reiwa, c'est-à-dire belle harmonie. C'est un reportage de Karine Nishimura.
Naruhito, 126e empereur du Japon, a ouvert son règne par ces mots.
En vertu de la Constitution et d'une loi spéciale, j'ai accédé au trône. Conformément à la Constitution, je remplirai mes obligations de symbole de la nation et de l'unité du peuple, en ayant toujours le peuple à l'esprit et en me tenant à ses côtés. Je souhaite le bonheur des citoyens et le développement de la nation.
La population espère, durant l'ère Reiwa, que Naruhito et la nouvelle impératrice Masako perpétuent les efforts de leurs ascendants Akihito et Michiko qui se sont dévoués corps et âme pour les citoyens.
Je souhaite d'abord la paix, pas de bagarre, une bonne entente.
Ce serait bien qu'il n'y ait plus de catastrophes naturelles.
Je souhaite vraiment que l'ère Reiwa soit sûre, tranquille, paisible.
Mais beaucoup s'inquiètent cependant de la santé fragile de la nouvelle impératrice qui a souffert de dépression et n'est pas totalement apte.
Qu'elle fasse ce qu'elle peut dans la limite de sa santé, mais qu'elle fasse attention, la santé d'abord.
D'aucuns aimeraient enfin que le souverain se fasse discret, la rareté de ses apparitions étant selon eux le gage de la pérennité du système impérial.
Et nous reviendrons sur ce nouvel empereur japonais dans un petit quart d'heure avec Xavier Martinet et les enjeux internationaux sur France Culture. En ce jour de manifestation du 1er mai, 7400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris. Paris où le ministère de l'Intérieur craint notamment la venue de 1000 à 2000 Black Blocs, des casseurs. Gilets jaunes et syndicats pourraient aussi s'y retrouver en nombre en ce jour de fête du travail. Les forces de l'ordre seront donc particulièrement attentives à tout risque de débordement. Elles qui sont régulièrement sollicitées depuis près de 6 mois maintenant avec les manifestations des Gilets jaunes. Sollicitées et fatiguées, c'est ce que tient à rappeler Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.
L'accumulation des maintiens de l'ordre, l'accumulation des missions, s'emparer du grand tour de France d'Emmanuel Macron et de celui qui se dessine maintenant d'Édouard Philippe. Donc bien évidemment, plus et mesures du quotidien, oui, beaucoup de fatigue, mais en même temps une volonté aussi de ne pas laisser la part belle faite aux casseurs, qu'ils soient Black Bloc ou Gilets jaunes radicalisés. Donc une tension palpable, une exaspération, une fatigue psychologique. Comment fait-on pour tenir? Je dirais que là, ça relève quasiment du miracle. On sert de variable d'ajustement à la crise sociale, à la crise politique, à la crise terroriste, sans compter la violence qui s'oppose au quotidien aux forces de l'ordre. Parce que 28 suicides depuis le début de l'année. Donc, il y a tout ça. Maintenant, il faut des actes. Il faut permettre aux flics de se reposer, il faut permettre aux flics de gagner mieux sa vie.
Des actes pour les policiers, de la liberté pour travailler du côté des journalistes qui couvrent ces manifestations. Certains, ces dernières semaines, se font interpeller. Et cette inquiétude a fait l'objet d'une question au gouvernement. C'était hier après-midi à l'Assemblée nationale, Manon Clavery.
L'interpellation du journaliste indépendant Gaspard Glanz le 20 avril lors de la 23e manifestation des Gilets jaunes à Paris était-elle une atteinte à la liberté d'informer ? Le député PS de Gironde, Alain David, s'en est inquiété hier à l'Assemblée nationale. Alors le Premier ministre, Édouard Philippe, a tenté de rassurer.
Je suis attaché au rôle de la presse. Je suis encore plus attaché d'une certaine façon à cette liberté de la presse. Une fois qu'on a posé ce principe qui est constitutif d'une de nos libertés publiques, reconnaissez avec moi que cette liberté, elle s'applique en France dans le respect de la loi. Et rien, monsieur le député, dans la liberté de la presse, n'autorise un journaliste à provoquer ou à insulter, par exemple, les forces de l'ordre. Rien.
Selon Édouard Philippe, Gaspard Glanz a provoqué, voire insulté les forces de l'ordre. Pour Pauline Hadès-Mével, de Reporters sans frontières, il a subi un traitement particulièrement dur.
Je ne suis pas certaine que tout manifestant, s'il avait exécuté ce geste du doigt d'honneur à l'égard des forces de l'ordre, eût passé systématiquement 48 heures en garde à vue. On a relevé un nombre mais inédit de violences policières envers ces journalistes qui sont amenés à couvrir les manifestations des Gilets jaunes et surtout une recrudescence ces dernières semaines qui laisse craindre des dérives à l'approche du 1er mai.
L'ONG estime à 90 le nombre de journalistes victimes de violences policières depuis le mois de novembre. Elle a appelé vendredi les forces de l'ordre au respect des règles élémentaires de la liberté de la presse.
Quatre hommes ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé une attaque visant les forces de l'ordre en France. Parmi eux, un mineur âgé de 17 ans, déjà condamné pour avoir tenté de partir en Syrie et y faire le djihad. Tous sont désormais en détention provisoire. Populaire, passant de la comédie au drame et surtout engagée, l'actrice Anémone est décédée hier. Connue pour son rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, elle avait aussi et surtout reçu le César de la meilleure actrice en 88 pour Le Grand Chemin du réalisateur Jean-Louis Hubert. Elle y interprétait la bouleversante Marcelle, une femme en mal d'enfant. Anémone, Anne Bourguignon de son vrai nom, avait 68 ans. C'est une maladie spécifiquement féminine, encore trop méconnue. L'endométriose, responsable souvent d'infertilité pour les femmes. Une maladie qui stocke une partie du sang liée aux règles dans d'autres zones du corps, ce qui peut provoquer des hémorragies et des douleurs très fréquentes. L'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'a évoqué hier en présentant, Maud Calvez, ses axes de travail sur l'infertilité.
Les chercheurs savent comment elle fonctionne, mais ne comprennent pas encore ce qui la provoque. Génétique, hormones, le champ de recherche est encore large, impossible donc pour le moment de faire de la prévention. Pourtant, les patientes comme Nathalie, présidente d'une association de lutte contre cette maladie, attendent ces progrès avec impatience.
Il démarre ce manque de connaissances dès les premiers contacts avec les infirmières scolaires, puisque les jeunes filles se plaignent déjà de règles très douloureuses à l'école. Puis plus tard aussi, quand on en parle à son général, généraliste, cette douleur-là n'est pas suffisamment entendue. Pareil, chez un gynécologue également, c'est très compliqué de faire entendre la maladie et ça, c'est dû à un manque de connaissances.
Une à deux femmes sur 10 est atteinte d'endométriose. Pourtant, il faut attendre longtemps avant de la détecter, entre 7 et 10 ans. Charles Chaperon est chef du service gynécologie chirurgicale à l'hôpital Cochin.
Quels sont les signes cliniques qui peuvent attirer notre attention pour se dire que ça, finalement, c'est des douleurs de règles relativement banales qu'on peut traiter par de simples anti-inflammatoires, ou alors ça doit nous alerter et à rechercher donc une endométriose par un interrogatoire plus poussé, un examen clinique orienté, des examens radiologiques adaptés par des praticiens qui connaissent bien l'endométriose.
Règles précoces, courtes, difficultés à avoir des enfants, quelques pistes pour détecter une possible endométriose, mais rien de très précis. Un groupe dédié à l'étude de la maladie vient d'être créé sous le nom de COMPAR. Il recherche entre 15 et 20 000 patientes pour faire avancer la recherche.
Et notons que le mois dernier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonçait un plan d'action pour renforcer la prise en charge de l'endométriose. Le ciel s'annonce de plus en plus nuageux en ce 1er mai avec une perturbation qui arrive par les côtes atlantiques. Les températures, elles, remontent un tout petit peu avec 14 degrés ce matin en moyenne de Brest à Besançon en passant par Paris, 15 à Lyon, 18 à Bordeaux et 20 degrés à Perpignan. Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
En ce mercredi 1er mai, vous vous penchez Jacques sur l'histoire du 1er mai oui. qui est intimement liée à celle du mouvement ouvrier.
Et, oui, et en particulier Clara à celle de la limitation du temps de travail à la journée de 8 heures selon le principe des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Ça fait au total une semaine de 48 heures puisque seul le dimanche était chômé. Et comme toutes les conquêtes sociales du monde ouvrier, c'est celle-ci fut obtenue de hautes luttes. Dans un livre devenu introuvable et opportunément réédité par les éditions Le Mot et le Reste, Histoire du 1er mai, Maurice Demanger décrit en détail les origines et les évolutions de cette journée internationale, d'abord adoptée par le mouvement ouvrier dans la perspective de son unité d'action par-delà les frontières, puis inscrite dans la loi française plusieurs décennies plus tard, en avril 1947, comme un jour chômé et payé. Maurice Demanger était instituteur et syndicaliste, l'auteur de nombreux ouvrages d'histoire sociale. Il revient sur le Congrès socialiste international de 1889 à Paris, moment fondateur de la Deuxième Internationale, qui se prononça pour l'établissement d'une législation internationale du travail et la durée légale de la journée à 8 heures. Parmi ces résolutions figure également l'institution d'une grande manifestation internationale à date fixe. Celle-ci est décidée pour le 1er mai en accord avec la Fédération des syndicats américains qui avait arrêté cette date en raison du Moving Day, le jour où de nombreuses entreprises entament leur année comptable et où les contrats ont leur terme, l'ouvrier devant souvent déménager pour retrouver du travail, d'où l'expression Moving Day. Pour le mouvement ouvrier américain, ce premier 1er mai de 1890 devait aussi commémorer le souvenir des luttes pour la journée de 8 heures et notamment celui des grandes grèves du 1er mai 1886 dont la répression fit de nombreuses victimes, en particulier à Chicago. Dans la foulée, certaines entreprises accordent à leurs salariés les 8 heures sans diminution de salaire. La brèche est ouverte pour les négociations. En France, le 1er mai 1891 est endeuillé par la fusillade de Fourmies dans le Nord qui fait 9 morts et 35 blessés quand la troupe tire sur les manifestants pacifiques. Et c'est seulement après la Grande Guerre, le traité de Versailles qui fixe dans son article 247 l'adoption de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures comme but à atteindre partout où elle n'a pas encore été obtenue. Auparavant, le Parlement français avait voté en avril 1919 la loi sur la journée de 8 heures. Du coup, les manifestations du 1er mai porteront sur d'autres revendications comme les congés payés et au fil du temps, de nouveaux acteurs se saisiront de la journée comme l'extrême gauche ou les associations de travailleurs immigrés après mai 68 ou encore les altermondialistes plus récemment, les chômeurs ou les salariés précaires précaire. Demain, aux côtés des syndicats, les gilets jaunes et les écologistes. Aujourd'hui, la souffrance au travail pourrait être à bon droit l'un des motifs de mobilisation. Anne Rodier rencontre dans Le Monde du livre de Sylvaine Perragin, Le salaire de la peine, publié au Seuil. La psychologue du travail évoque la dangereuse montée des tensions dans l'univers feutré des bureaux, alors que 90% des actifs pensent que la souffrance au travail a augmenté depuis 10 ans. Et de livrer quelques chiffres alarmants, en 2017, 400 000 personnes souffraient de troubles psychiques liés au travail, 500 sont parvenues à les faire reconnaître comme maladies professionnelles. En 2018, la France comptait 3,2 millions de personnes en danger d'épuisement, ainsi que plus de 4 000 infarctus directement dus au stress professionnel. En cause, les nouvelles méthodes de management, la surdité volontaire des DRH malgré les nombreux audits et le développement d'un véritable business de la souffrance au travail qui opère comme un cautère sur une jambe de bois. Des fausses solutions étiquetées bien-être au travail ou bonheur au travail dont le succès économique résulte d'un processus d'évitement. Le stress des salariés est abordé dans une approche centrée sur l'individu qui écarte les causalités relatives à l'organisation du travail. Charles Gros, le découvreur de l'International d'Eugène Potier, militant socialiste tendance Jules Guesde et poète à 16h, est notamment l'auteur d'une marche du 1er mai qui chante le renouveau. Comme aux arbres monte la sève, l'idée aussi monte au cerveau et la sociale se lève. C'est lui qui évoque, à propos des chansons populaires célébrant la fête du travail et les luttes ouvrières, la sève éternellement rouge du 1er mai. Dans son petit traité de sagesse d'un balayeur de rue, paru chez Pocket sous le titre « Une rose et un balai », Michel Simonnet raconte le quotidien du cantonnier urbain qu'il a choisi d'être, un travail ingrat, mais d'où la grâce n'est pas absente, et pour la ménager, cette grâce, il plante tous les jours une rose à l'angle de son véhicule de fonction, le char à ordures, une rose rouge évidemment. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui l'abdication de l'empereur du Japon.
Et oui, peut-être le déclin du Premier ministre, l'abdication en tout cas de l'empereur Akihito, première depuis 1817. C'est son fils Naruhito qui devient aujourd'hui le 126e empereur à 58 ans. Abdication d'une fonction donc sans pouvoir constitutionnel, alors que le pouvoir réel, celui de Shinzo Abe, Premier ministre, pourrait peu à peu s'effriter. On voit ça avec vous, Franck Michelin, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet.
Merci d'être avec nous au téléphone en direct depuis Tokyo. Vous êtes historien du Japon à l'université de Teikyo, auteur récemment de La guerre du Pacifique a commencé en Indochine, aux éditions Passé Composé. Alors qu'on s'attache juste à la cérémonie rapidement, donc les deux empereurs ont souligné tous les deux ce caractère de symbole de la fonction impériale. La constitution de 47 définit l'empereur comme symbole de l'État et de l'unité du peuple. C'est la fin d'une ère de 30 ans, 10 minutes de cérémonie hier, 6 minutes aujourd'hui, à huis clos, sans rassemblement notable. C'est une sobriété politique particulière ou parce que la population s'en est désintéressée?
Question difficile. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une période de congé de 10 jours, quelque chose qui n'est jamais arrivé ici, puisqu'avec l'accession au trône d'un nouvel empereur, il y a eu des jours fériés supplémentaires. Une bonne partie de la population n'est pas à Tokyo et la plupart des magasins et des services publics sont fermés ou en service réduit. Donc il y a un petit peu des deux. Il est clair qu'il est un petit peu difficile ici de saisir un événement qui est tout à fait nouveau puisque on n'a jamais vu au Japon, comme vous le savez depuis 200 ans, une abdication. En plus, il y a 200 ans, le système impérial était extrêmement peu connu et certainement pas médiatisé comme il l'est aujourd'hui. Donc là, on a une situation assez nouvelle avec un empereur toujours vivant qui s'est retiré et son fils qui prend la succession. Donc on ne sent pas vraiment une ferveur extraordinaire, mais bon, tout de même, dans les médias, on ne parle que de ça depuis déjà quelques jours et aujourd'hui, c'est un petit peu 24 heures sur 24 ou presque des informations liées à la famille impériale.
Alors c'est une abdication qui avait été annoncée déjà en 2016 par l'empereur Akihito. Il avait dit je m'inquiète de la difficulté à remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État puisqu'il avait été plusieurs fois malade et qu'il est toujours vieillissant. Vous avez souligné que c'est le premier effectivement à abdiquer volontairement depuis 1817. Est-ce que c'est pas déjà une décision politique en ce sens?
Oui, peut-être un petit peu, hein. Il est difficile de sonder exactement ce que pense l'empereur, surtout que, j'irais d'une façon traditionnelle, mais surtout en raison de la constitution de 1947, l'empereur n'est pas censé intervenir dans le jeu politique. Maintenant, il est assez clair depuis quelques années qu'il n'approuve pas la politique menée par le Premier ministre sur un certain nombre de points, et que son abdication, même si elle n'est peut-être pas due véritablement à une forme de désaveu, peut prendre peut-être un petit peu cette couleur. Donc il y a effectivement peut-être quelque chose, mais là il faut être extrêmement prudent.
Alors on va reparler des rapports entre l'empereur et le Premier ministre. Si on reste sur Akihito, l'empereur qui vient de quitter le pouvoir, le père de Naruhito, quel est son legs, diriez-vous, dans ces terres qui a duré 30 ans, donc qui était celle de l'accomplissement de la paix? Alors c'est le fils, bien sûr, de Hirohito. Avant qu'on parle de la politique ou de la géopolitique de l'histoire, un legs social, on a beaucoup dit pour son rôle après notamment le tsunami.
Oui, bah énormément. Alors, il faut savoir d'abord que c'est l'empereur véritablement de la constitution de 1947, puisque son père était passé de l'ancien système, et notamment de la période de la guerre, à un système d'empereur symbole en vertu de la nouvelle constitution de 1947. Mais cet empereur-là, lui, est vraiment un empereur de l'après-guerre. Donc il a énormément symbolisé ce Japon apaisé, cette cour impériale tout à fait neutre au niveau politique et qui est avant tout une force morale. Maintenant, celui qui est l'ex-empereur Akihito a fait énormément de choses pour avoir des liens très très forts avec la population. Ça c'est une première chose, hein. Donc il s'est énormément rendu auprès des réfugiés, des sinistrés pendant les nombreuses calamités naturelles qu'il y a eu ces dernières années, mais ça il l'a fait tout au long de sa vie. Il a fait énormément de choses aussi en se rendant, je crois, une cinquantaine de fois à Okinawa pour essayer de panser les plaies de la guerre dans un archipel qui non seulement a été victime de la guerre, encore plus que toutes les autres parties du pays, mais en plus abrite des bases américaines qui constituent une nuisance extrêmement importante. Et il a joué aussi, peut-être toute sa vie, mais en tout cas beaucoup dans les dernières années, un rôle de défenseur de la Constitution, réaffirmant non seulement sa place de symbole de la nation, mais aussi en réaffirmant la nécessité pour le Japon de retirer les leçons de la Seconde Guerre mondiale et de ne plus jamais entrer en guerre. Donc ça, il l'a fait d'une façon extrêmement active, en restant dans le jeu constitutionnel, mais avec toutes les prérogatives qui lui étaient données en la matière. Notamment ses visites sur les champs de bataille de la guerre du Pacifique, notamment à Saipan, sont des choses qui sont restées gravées dans la mémoire d'une façon extrêmement vivace.
Oui, visite à Saipan en 2005, visite aussi à Palau 2015, Philippines 2016. Il a exprimé aussi des profonds remords, je crois. Est-ce que c'est en ce sens, vous disiez, qui s'est le plus peut-être opposé à la politique de revivification nationaliste de Shinzo Abe?
Oui, bah, certainement. Hein. Le terme qui est utilisé en japonais, c'est le terme de Hansei, qui est un petit peu difficile à traduire par un concept français. Disons qu'il s'agit à la fois de tirer les leçons du passé et de faire en sorte que les erreurs ne soient pas reproduites. Donc il ne s'agit pas véritablement de messages de pardon, ce qui d'ailleurs ne relèverait pas forcément de ses prérogatives. Mais il faut savoir que ce terme de Hansei, en fait, a été récemment retiré des discours du Premier ministre chaque année le 15 août 1940, le 15 août qui célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que généralement les premiers ministres le prononçaient, mais l'empereur maintenant les a prononcés d'une façon très très claire. Donc oui, il y a une certaine forme d'opposition, même si évidemment il n'a jamais dit qu'il était opposé au Premier ministre. ce qui serait impossible en vertu de sa fonction.
Et alors justement, concernant le Premier ministre lui-même, il s'est exprimé également hier. Shinzo Abe a dit « Tout en gardant dans nos cœurs le chemin parcouru par l'empereur, nous ferons tous les efforts possibles pour créer un avenir brillant, plein de paix et d'espoir pour un Japon fier. » Est-ce que ce thème du Japon fier, c'est pas un avertissement justement au prochain empereur et une manière de, disons, remettre les pendules nationalistes à l'heure ?
Non, je ne pense pas qu'il lance un avertissement à l'empereur, mais je pense par contre qu'il se sert de cette passation, je dirais pas de pouvoir, parce qu'il n'y a pas véritablement de pouvoir, mais de ce changement d'empereur, pour un petit peu en profiter, pour essayer de redorer son image dans le pays. Alors il y a ces mots qui reviennent souvent dans sa bouche, d'un Japon beau, qui va avoir un avenir brillant, et en même temps, évidemment, un message nationaliste un peu qui arrive subrepticement. C'est peut-être un petit peu ce qui a pu paraître choquant pour beaucoup de Japonais, c'est le fait que le gouvernement actuel ait un petit peu essayé de se servir de cette passation pour se mettre en avant, ce qui semble un petit peu, semblait pas très très élégant, voilà.
Oui, alors même que effectivement en ce moment et on en parlait en préparant cette émission hein, mais le Premier ministre japonais fait face à un certain nombre de difficultés d'ordre politique entre certains signes de faiblesse économique et puis la question des ministres gaffeurs, là il y en a deux qui ont dû démissionner après deux scandales déclenchés par leurs propos.
Oui, c'est ça. Ben, on s'aperçoit de plus en plus que le Premier s'est entouré de gens qui paraissent au minimum pas d'une très grande... qui ne sont pas vraiment capables d'assurer leurs fonctions. Ça, c'est un premier problème. Le plus gros scandale, même si la faute est toujours rejetée sur la haute fonction publique, sur l'administration, c'est le trucage de statistiques. Et récemment, il y a eu une perte de statistiques... concernant les salaires au Japon sur une période de 8 ans, je crois. Enfin, il y a vraiment un certain nombre de bourdes assez lourdes. Et petit à petit, un doute s'insinue dans la tête de la population, selon lequel les trois flèches d'Abenomics auraient été très largement basées sur des statistiques truquées. Alors, pour le moment, on ne voit pas de revirement de l'opinion très rapide, mais ça n'est jamais le cas au Japon, mais une petite musique, petit à petit, qui commence à s'imposer, comme quoi peut-être ce pouvoir, ces différents gouvernements Abe touchent un petit peu à leur fin et qu'une nouvelle époque devrait s'ouvrir. Peut-être que l'arrivée d'un nouvel empereur, ça va permettre un petit peu à la population d'essayer de voir les choses autrement.
Et alors que Shinzo Abe, lui, n'a cessé depuis 2012 de rechercher une légitimation politique à travers des législatives anticipées. Il en a provoqué trois. Là, la prochaine législative, ce serait en 2021, je crois. Mais il y a déjà eu deux législatives partielles à Osaka et Okinawa tout récemment, 21 avril, où son parti, le Parti libéral-démocrate, a perdu. Alors, coup majeur, a dit le Japan Times. Est-ce que ça fait partie effectivement des signes de craquement, diriez-vous, de son hégémonie ?
Ah, il ne s'agissait pas de législatives, mais d'élections locales. Hein. Il y a eu des élections aux mairies, dans des mairies et dans des conseils et dans des départements. Hein. Il s'agissait de l'équivalent des conseils généraux, si vous voulez.
Alors, quelle portée elles ont, ces défaites ?
Elles ont porté que, notamment, ça a été un résultat assez symbolique, le PLD s'est fait complètement laminer à Osaka, qui est quand même, la région d'Osaka est quand même la deuxième grande concentration de population dans le pays, après la région de Tokyo-Yokohama. Plus, en fait, un certain nombre de défaites dans d'autres endroits, donc ça a été une assez grande surprise. Maintenant, le problème, c'est que ces défaites ne viennent pas d'un parti d'opposition qui serait en train de monter dans l'opinion, mais de situations locales extrêmement diverses, avec des partis plus ou moins locaux, parfois ça a été le parti communiste, enfin, etc. Il y a eu des choses très très diverses au niveau local. Ça laisse percevoir une forme petit à petit de lassitude, je dirais, mais Shinzo Abe, qu'il est Premier ministre ou presque, n'a jamais eu un soutien absolument énorme, mais a toujours bénéficié de la décomposition de l'opposition. Et la grande question, c'est est-ce que l'opposition va réussir à renaître de ses cendres ?
Eh ben, grande question à poser pour les prochains mois, les prochaines années. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Franck Michelin, auteur de La guerre du Pacifique a commencé en Indochine. On mettra les références de votre livre en ligne. Merci, bonne journée à Tokyo.